coup, ouais, il y a Michel qui m'a demandé de présenter mon témoignage. Je vais essayer de ne pas tous vous endormir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aymeric, j'ai 18 ans, donc je suis à Toulouse depuis 2 ans. Donc, c'est sûr, avant de connaître le Seigneur, je me considérais plutôt comme quelqu'un de libre, d'heureux. On me disait parfois que j'étais quelqu'un de sympa, d'agréable et tout. Mais par contre, je ne connaissais pas le Seigneur et je vivais un peu chaque jour de ma vie comme une fatalité. Et je souffrais un peu d'un manque spirituel. Je ne savais pas que j'allais être sauvé un jour par le Seigneur, par Jésus. J'étais vraiment un peu perdu et je ne connaissais pas le véritable bonheur que pouvait apporter Jésus. Et ça me fait penser à un passage de l'épître de Paul aux Éphésiens, dans Éphésiens 2:12, où il nous dit « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Cependant, en classe de seconde, je suis entré dans un lycée catholique. On avait des cours de pastoral, c'est des cours d'éducation religieuse. Et on nous parlait de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. Mais à cette époque-là, j'étais pas trop croyant et je prenais un peu ces cours comme des blagues. J'y allais pas. Et en plus, on avait des témoignages. Des gens venaient nous témoigner comment est-ce qu'ils ont rencontré Dieu. Mais je me sentais pas trop concerné parce que la plupart des gens, c'était des anciens drogués qui avaient le sida et qui étaient en prison. Qui avaient été en prison, où ils ont rencontré le Seigneur. Et un jour, il nous a montré le témoignage de quelqu'un auquel je me suis un peu plus identifié, c'était aussi un étudiant en école d'ingénieur. Et il avait tout, mais il lui manquait le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il l'a découvert. Donc je me suis posé quand même 2-3 questions à cette époque-là. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Qu'est-ce que Jésus-Christ a vraiment fait pour nous? Mais en classe de terminale, donc j'ai été admis à Toulouse, où je suis venu ici, dans un lycée public, où là j'ai plus entendu parler du Seigneur. Et je souffrais un peu d'un manque de Dieu. J'étais sans Dieu, sans espoir, et la Bible nous le dit en Romains 3, versets 10 à 12. Il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés. Ils se sont tous rendus ensemble inutiles. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté. Non, même pas un seul. C'était mon cas. Et un ami de l'école, Louis, Miguel, pour ceux qui le connaissent, il m'avait invité une fois en classe en janvier de 2014, aller au groupe de jeunes de cette église. Et j'étais chez moi et j'avais pas trop envie d'y aller. Déjà parce qu'il m'avait dit que c'était une église protestante et comme j'avais été dans un lycée catholique, j'avais pas trop envie de me retrouver protestant à la base. Et en plus, j'avais prévu d'aller au cinéma voir le Loup de Wall Street à l'époque. Donc j'avais tout d'abord refusé. Mais au bout d'une demi-heure, je me suis dit, il m'a quand même invité dans une église et tout, c'est sympa, je vais peut-être y aller voir ce que c'est. Donc j'y suis allé. Le lendemain, j'étais au culte. Et ensuite, j'y suis pas retourné pendant 2-3 mois, je crois. Puis j'y suis retourné. Et progressivement, j'y suis surtout retourné un peu plus régulièrement. Donc Dieu il ne m'a pas changé en un jour, comme ça a pu arriver à certains ici. Mais au contraire, il m'a changé relativement lentement, au cours de plusieurs mois. Et donc ici, j'ai vraiment pu découvrir ce que Jésus il avait fait pour nous. J'ai pu expérimenter la prière, et aussi à des sorties d'évangélisation. J'ai découvert le plan que Dieu il a pour nous, un plan qui est beau, qui est magnifique. Il a donné Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés sur la croix. En Jean 3:16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » En effet, Dieu il nous aime d'un amour qui est si fort, si grand. Alors que nous, on est des pécheurs. On a tous péché ici au moins une fois. Qui ne peut dire qu'il n'a jamais péché? Personne. On a déjà tous au moins menti une seule fois dans sa vie. Et notre péché, il est tellement grand, il a fait entrer la mort dans ce monde. Et on n'est pas capable de nous sauver par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous sauve, car il nous a donné Jésus-Christ. Il nous a donné, enfin c'est inimaginable l'amour qu'il a pour nous. Il a donné son fils unique pour que l'on soit sauvé. Et donc, juste après la conversion, j'ai tout d'abord un peu continué à vivre comme avant. Mais la différence qu'il y avait entre avant et après, c'est que après, je connais Jésus, quoi. Et il m'accompagne dans tous les instants de ma vie, les bons comme les mauvais. En Matthieu 28, 20, il est dit, et voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement du siècle. Donc progressivement, j'ai commencé quand même à reconnaître que j'étais pécheur comme tout le monde. Et j'ai essayé de m'éloigner du péché. En 1 Jean 1, verset 9, il nous est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc malgré le mal que j'ai fait, j'ai essayé de m'en éloigner pour me rapprocher de Dieu, notre Seigneur, et pour le connaître de mieux en mieux, expérimenter sa joie, son amour, selon ce qu'il est écrit en Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance et la fidélité. C'est pas beau tout ça? Ouais, j'ai vraiment la certitude maintenant d'être sauvé par le Christ, non par mes actes, car on a tous fait tellement de mal, honnêtement, c'est pas possible d'être sauvé, même en faisant le bien là pour le reste de notre vie. Mais justement par la grâce et l'amour de Dieu qui est vraiment infini. Donc honnêtement, maintenant j'ai de plus en plus d'amour pour autrui, pour les gens, et de bonheur également. J'ai plus de joie à servir les autres qu'à recevoir. Dieu, il m'a totalement changé et je ne suis plus tout le même que j'étais il y a quelques mois, voire même années. Et maintenant, lire la Bible, aller à l'église, prier et bien sûr témoigner de ce que Jésus-Christ peut faire, c'est devenu agréable. D'ailleurs, la Bible, elle nous dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est honnêtement Dieu, pour finir. Dieu, s'il a été super pour moi, il l'est aussi pour vous tous. Donc ouais, c'est tout.
Enlever avant de faire trompette. Non, je veux faire juste une introduction au baptême d'Émeric. Expliquer pourquoi il y a un baptême. Et je prends juste 2-3 minutes, hein, ce n'est pas l'objet du message ce matin. Mais le mot baptizo en grec signifie immerger. Donc le vrai sens de la forme qui semble être la plus logique d'après les Écritures, c'est l'immersion. Mais non seulement étymologiquement parlant, le baptême signifie une immersion, mais théologiquement parlant, le baptême a une signification précise, puisque quand on plonge, le baptisé, quand il est plongé dans l'eau, il est immergé dans l'eau, c'est le symbole de notre mort en Christ. On est identifié à la mort de Christ et on sort de l'eau, et à ce moment-là, c'est le symbole de notre identification à la résurrection de Christ. Dieu a permis que Jésus-Christ prenne nos péchés à la croix, mais il est ressuscité pour nous justifier. Nos péchés ne sont plus sur nous, ils sont à la croix. Et c'est ce que symbolise le baptême quand on est enseveli dans l'eau. Voilà, je suis mort au péché, Christ a pris mes péchés à la croix. C'est gratuit, mais ça n'a pas été gratuit pour lui. Et il nous a pardonné et lui a pris tous nos péchés à la croix, quels qu'ils soient. Donc en fait, le baptême, c'est un symbole d'une expérience. Et on ne peut pas être baptisé sans avoir fait cette expérience. C'est une erreur de baptiser les enfants. Moi-même, je l'avais été, hein, mais je n'étais pas conscient à ce moment-là. Mais ce n'est pas l'engagement d'une alliance, parce qu'en fait, c'est un choix personnel. Le baptême, c'est un témoignage public, une fois qu'on a découvert la foi, pour dire, voilà, je m'engage à suivre le Seigneur et je comprends les eaux du baptême. Alors, tout ça pour dire que le baptême n'est pas le salut. On est baptisé parce qu'on a accepté le Seigneur et on symbolise dans notre identification à la mort et résurrection de Jésus-Christ par le baptême. Et le baptême, on est conscient de ce que ça représente. Donc c'est une étape après l'expérience du salut. Ce n'est pas non plus la continuité de la circoncision. Certains disent, voilà, c'est l'équivalent dans l'Ancien Testament de la circoncision. Voilà, maintenant, où les parents qui baptisent les enfants, on entre dans l'alliance de Dieu. Non, non, c'est pas comme Abraham et la circoncision dans l'Ancien Testament. C'est une expérience nouvelle. Alors, Jésus a dit, allez, faites une nation des disciples, les baptisant. Donc, c'est un commandement. Donc, le croyant, il a envie d'être baptisé, c'est dans son cœur. L'Église ne baptise pas, c'est la personne qui, enfin, je m'entends, c'est la personne qui dit, voilà, moi je veux obéir au Seigneur parce que le Seigneur me demande d'être baptisé. Et c'est un témoignage envers Dieu public, c'est ce qu'a fait Émeric, et ce n'est pas la première fois dans ce monde. Il y a des millions de gens qui ont témoigné de ce que Jésus a fait dans leur vie, comment Dieu les a transformés. C'est un témoignage envers soi-même, parce que c'est un pas de la foi, un baptême. C'est voilà, je prends publiquement position, oui, j'aime le Seigneur, comme vient de faire Émeric, et c'est son choix. Et c'est un témoignage de séparation avec le monde. On est dans le monde, on n'est pas du monde. Dieu nous permet de jouir de beaucoup de choses, mais ce n'est pas le courant de ce monde qui nous entraîne. C'est dans les mauvaises choses, notamment. Mais c'est au contraire, on a une nouveauté de vie dans le cœur qui fait que, avant, enfin moi personnellement, je n'avais jamais lu la Bible. Tout d'un coup, j'aimais à lire la Bible, j'aimais prier, j'aimais rencontrer des gens à l'église. C'était tout nouveau pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es vraiment différent. Et bon, j'étais un passionné de sport, mais là, j'étais devenu un passionné de la Bible. Ça n'empêche pas que j'ai aimé le sport après. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui se passe. Et après, on a envie de le témoigner, de le dire aux autres. Et c'est aussi un témoignage envers l'église, comme a fait Émeric en public. Et puis un témoignage vis-à-vis de l'ennemi qui existe, le diable. Et voilà, je prends position pour Jésus-Christ. Et c'est merveilleux. Moi, je me réjouis. Ça fait des années maintenant que, par la grâce de Dieu, je suis pasteur, hein, vous le savez. Mais on se réjouit tous ensemble à chaque fois qu'il y a un baptême, un témoignage. Et on sait que c'est Dieu qui a transformé la vie d'Émeric, ce n'est pas l'Église. Hein. L'Église a contribué parce qu'il y a eu des jeunes qui lui ont témoigné, etc. Mais c'est vraiment le Seigneur qui a transformé la vie d'Émeric. C'est ça qui est merveilleux. Où qu'il aille maintenant, c'est le Seigneur qui va être son berger, le diriger. Et c'est ça qui fait notre joie, c'est que c'est la foi ensuite qui dirige l'enfant de Dieu parce qu'il est en communion avec son Seigneur. Alors, je vais demander à Émeric de bien vouloir s'avancer.